la chronique dans ce temps-là avec Philippe Basque.
Et Philippe va nous parler du poisson d'avril ce matin.
En ce 1er avril, bonjour Philippe.
Bonjour à vous deux.
Alors, 1er avril, vous avez des histoires à nous conter, quoi?
Ah oui, on dit aussi le mois d'avril, on se découvre pas d'un fil.
Oui, c'est vrai.
Là, il neige un matin. Fait. Oui, c'est ça, le poisson d'avril, ça vient de quand même assez longtemps. Si vous faites de la recherche là, sur Internet, sur toutes sortes de sites, là, vous allez voir que c'est ça remonte surtout à le changement du premier jour de l'année. Fait que il y a eu, à longtemps passé, il y avait un différent calendrier, là, puis même partout en Europe et ailleurs, là, il n'y avait pas de journée exacte qu'on commençait une telle jour, une telle année. Là. Puis là, c'était la même chose pour les heures. Hein. Les heures, ça va prendre le train pour qu'on puisse avoir des heures fixes pour que quand le train arrive, il arrive à la bonne heure. Parce qu'auparavant, ça, les heures puis les jours comme ça, c'était tout un petit peu, tout le monde avait son heure. Là. Il n'y avait rien de tellement exact. Fait qu'à un moment donné, le calendrier va changer. Puis on va passer du 1er avril au 1er janvier, qui est le début du jour de l'an. Là. Fait que le monde qui pensait encore que c'était le mois d'avril, le premier jour de l'an, bon, on pensait que c'était une gang qui était pas vite. Là.
Ouais.
Puis on leur faisait des tours, puis on riait d'eux autres, on se moquait d'eux autres, que ah, vous autres êtes encore dans le vieux temps. Là, que vous pensez que c'est le 1er avril. Fait que c'est devenu comme une des blagues à faire. Puis éventuellement, ça va devenir le poisson d'avril. Il y a toute une question de religion aussi, là, si vous regardez, là. Le temps de l'année qu'on est dedans tout de suite, c'est la fin du carême ou des fois Pâques. Fait que ça rentre là-dedans aussi. J'ai lu ça un petit peu aussi, là. Le symbole de pêche qui s'en vient, le printemps, avec là, le poisson d'avril, puis les tourbes, le changement. Fait, tout ça, ça s'est mis ensemble pendant des centaines d'années. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, le jour des tours, au 1er avril. Cependant, auparavant, les plus âgés s'en rappellent. Même moi, là, quand j'étais jeune, là, le jour des tours, c'était pas nécessairement le 1er avril, mais c'était le 31 octobre, où est-ce que l'Halloween n'existait pas. Quand j'étais jeune, l'Halloween, ça existait le 31, mais le jour des tours était le 30, qui était la veille de l'Halloween. Fait que ça a changé aussi. Puis maintenant, le jour des tours, la veille de l'Halloween, ça a comme arrêté, là. Mais dans ce temps-là, on jouait les tours le 31 octobre, puis c'était des tours qui étaient pas vilains, là. C'était pas des tours trop méchants, c'était juste comme amener des affaires d'un bord à l'autre, là. Puis le fermier, le lendemain matin, il fallait qu'il cherche sa vache ou qu'il cherche sa charrette puis il cherche je sais pas quoi que les jeunes avaient trimballé d'un bord à l'autre.
Okay.
Tu sais, le plus qui a pris plus de temps là, que quelqu'un m'a compté, c'est un tour qu'ils ont joué à Tracadie, je pense. C'est un autobus ou un autobus ou un camion, quand même quelque chose de gros. Là. Ils ont été obligés de se prendre à quatre gars pour le mettre en nul, puis le reculer, puis l'amener en quelque part. Puis le gars, quand il s'est réveillé le matin, il me semble que c'est un petit autobus voyageur ou quelque chose comme ça. Là.
L'autobus
n'était plus là. Ils l'ont déplacé, puis là, il a fallu qu'il cherche ça pendant un bout de temps. C'était la même chose avec les vaches. Les vaches, le matin, on se réveillait, puis c'était pas notre bonne vache qui était dans la grange. Puis là, il fallait que tu fasses le tour des voisins pour savoir. Avec ce vache-là.
C'est comique, là. Tu perds ta journée, là.
Oui, tu perds ta journée. Là, tu cherches ta vache. Fait, c'est un peu ça, le poisson d'avril. Puis moi, ben, je fais ma tournée scolaire encore. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'école, mais l'année passée, je me rappelle, j'avais été dans une école, puis c'était le 1er avril. Puis je me suis fait coller plein de poissons sur moi. Là. Les jeunes, ils étaient contents de voir quelqu'un d'autre.
Tu fais ça, jeune.
Qui pouvait être incroyable. Une victime là, dans l'école. Fait, c'était bien heureux de tout ça, eux autres, là, les jeunes. Là. Je ne sais pas où j'étais, là, mais c'est de même tout partout.
Oui. Puis le 1er avril, ben, on commence à penser à la pêche. Hein?
Oui, c'est ça. Fait, je me suis dit, je vais parler de différents types de pêche. Puis à la fin, je me suis dit, ah, ça fait trop. Là. Fait, je vais me concentrer sur un type de pêche que moi, je ne connais pas tellement, mais il y a beaucoup de données historiques parce que c'est quand même un poisson qui est pêché beaucoup, qui est le saumon. Puis je pense pas qu'on a déjà parlé dans nos chroniques. Je pense que j'ai déjà parlé de l'éperlan, puis peut-être
non,
de la morue.
Pas
de saumon. Puis j'ai mangé du saumon hier. Fait que je pense que c'est de là que ça vient.
C'est concept.
Oui, moi, j'aime ça, le saumon. Puis,
c'est
oui,
très
ben,
bon, le saumon.
Oui, ben oui. Puis c'est ça, le saumon, ben, il est dans nos rivières, ça fait longtemps. Les autochtones le pêchaient, le fumaient ou le séchaient. Quand une couple de semaines passées, on a parlé des grattoirs puis des instruments d'archéologie. Ben, ça, c'est un des poissons qui était en grande quantité. Puis, quand on regarde dans les années 1800, quand on commence à faire une pêche plus industrielle, on voit qu'il y avait quand même des grands stocks de saumon, puis qu'on le pêchait tout le long de nos côtes. Tandis qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas familier avec le saumon. Je n'ai pas eu le temps de regarder les lois, puis comment ce qui est pêché, qui est beaucoup protégé. Là, puis en anglais, c'est catch and release. Là, et on le capture, puis on le remet à l'eau. Là, je sais qu'il y a ça côté sportif. Mais À chaque printemps, il y a toujours des reportages à la radio ou dans les nouvelles comme quoi qu'on essaie de préserver la ressource. Mm-hmm. Dans les années 1800, on parlait de ça déjà, puis on va voir les chiffres, là, ça baisse dans les années 1900. Puis si on remonte vraiment dans les années 1600, on a une citation de Nicolas Denis qui dit qu'il y avait tellement de poissons qui remontaient durant une telle période de l'année, parce que le saumon remonte les rivières, hein, il remonte la Vestigouche, il remonte les rivières. Puis il disait, lui, dans le Havre de Bathurst, il faisait tellement de bruit qu'il les réveillait la nuit, là, qu'il y avait tellement de saumons qui plongeaient et qui sautaient pour monter. Là. Fait que c'est ça qu'il dit, lui, là, Nicolas Denis, dans les années 1600. Puis dans les années 1800, dans la région ici, là, on va commencer à avoir des filets de pêche pour pêcher le saumon. Tout dans la baie des Chaleurs au complet, jusqu'à là-bas dans le fond. Puis tout le long de la côte aussi, jusqu'à par chez nous, dans la péninsule acadienne, jusqu'à Canégouac. On pêchait le saumon avec des filets, là, des types de filets. Mm-hmm. On va surtout commencer à avoir cette industrie-là dans les années 1870. Là. Puis un des premiers dans la région ici, là, comme un Acadien, ça va être Joseph Poirier à Grand-Anse. Je ne sais pas si je n'ai pas déjà parlé dans mes chroniques de lui, là, mais lui, c'était un type qui va avoir un magasin général. Il va avoir toutes sortes d'entreprises de pêche comme ça. Il va être député. Fait que dans ce temps-là, on pouvait tout avoir ça, puis piger dans les potes, puis donner des affaires là, sans trop de conflit d'intérêts. Puis lui, il faisait ce genre de choses-là. Puis dans le livre à Nicolas Landry, qui est « Éléments d'histoire de pêche », il en parle de toutes ces personnes-là qui font de la pêche au saumon. Puis il parle aussi de certains conflits. Ben, pas certains conflits. Il parle de conflits qu'il y a entre les députés puis entre ceux qui veulent avoir les plans de pêche, puis entre les pêcheurs eux-autres même, les entrepreneurs. Parce que dans ce temps-là, on a déjà parlé aussi, que l'influence politique était très forte. Si on était du côté conservateur, ben les pêcheurs, les entrepreneurs, c'est tout du jour qui va avoir les permis. Mm-hmm. Puis si on était libéral, là, ça changeait, ben là, ça va être la gang de libéraux. Ce qui est arrivé une couple de fois, là, c'est quand ça changeait, là, on changeait toute la gang.
La même chose pour les chemins.
Oui, c'est la même chose pour les chemins. La même chose pour les bureaux de poste, ça changeait, là. Puis lui, c'est ça, on explique qu'il y a des différents types de trappes. Là. Il y a le filet trappe, puis il y a une autre sorte de filet où est-ce qu'on peut installer ça, puis on appelle ça des postes de pêche. Fait que là, c'est ça le filet qu'on installe, puis qu'on désinstalle si on a le permis de pêche ou si on ne l'a pas. Là. Puis il disait, lui, que Joseph Poirier, qu'il y a certaines règles qui ne marchent pas. Il disait à un moment donné qu'il fallait enlever les trappes le samedi. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il n'y avait pas le droit de pêcher le dimanche. Ça peut être ça. On n'explique pas pourquoi. Il fallait y enlever les filets le samedi. Mais en tout cas, il disait que ça ne marchait pas trop. Il disait, lui, qu'il perdait de l'argent des années. Par exemple, en 1902 ou en 1903, il y avait eu des tempêtes. Fait que la date cette année-là, il pensait s'enligner le 20 mai, mais finalement, il a installé ses filets le 9 mai. Mais il dit que le courant est très fort. Lui, il pêchait entre Grand-Anse et Maisonnette. Mm-hmm. Il disait que le courant était assez fort, que ça déchirait tous les filets. Ça les apportait, en tout cas, au large. Il les perdait. Là. Fait que ce printemps-là, il est deux tempêtes, puis deux fois, il a perdu ses filets au complet. Là. Fait que ça a comme ruiné, pas son année, mais en tout cas, ça l'a empêché d'avoir des gains significatif. Là. Tandis que l'année suivante, il n'y a absolument rien qui est arrivé. Il dit aussi que quand tu pêches au filet comme ça, qu'il faut mettre des poids là, pour que le filet reste dans le fond de l'eau, pour que le poisson se pogne. Il disait que des fois, le courant est tellement fort que le filet reste à la surface. Fait qu'il n'y a rien qui se pogne, fait qu'il perd des journées de temps, là, que ça arrive pas qu'il peut avoir du saumon. Là. Puis dans les années 20 jusqu'aux années 40, là, on donne des chiffres. Là, comme au Nouveau-Brunswick, on pêchait passé 2,5 millions de livres en 1926.
Wow.
Puis en 1953, on est rendu à 650 000 livres. Fait qu'on a vraiment baissé en plusieurs années, en 25 ans. Puis il y a des chiffres pour la péninsule acadienne. Il y a la plus grosse année, c'était 1925. C'était comme un demi-million de livres. Là. C'était 561 000 livres pour une valeur de 72 000 $ de pêche au saumon. Là. Puis en 1946, ça avait baissé à 200 000. Fait, tu vois, dans les années 1800, on a des gros chiffres. Puis plus qu'on s'en va dans les années 40-50, on voit que déjà ça diminue beaucoup. Puis quand on vient à donner des permis de pêche, il y a plus de demandes que de permis qui est donné. Là. Mm-hmm. Il y a beaucoup de monde qui demande, mais c'est pas tout le monde qui dit oui. Là. On dit beaucoup de non. Puis souvent, c'est les mêmes parce que les mêmes sont déjà dans le système. puis ils ont déjà supporté le parti politique.
Ah,
fait qu'on n'a pas le choix de leur donner à eux autres. Fait que ça cause des chicanes. Là. C'est un type, au début du siècle, c'est un type de Moncton qui est comme l'employé du gouvernement fédéral. Là. Puis lui, il faut qu'il gère comme les permis, il faut qu'il gère le politique.
C'est lui qui décide à qui on remet les permis, là.
Oui, c'est comme le fonctionnaire fédéral.
Ouais.
Fait que lui, il est de Moncton, puis il dit à chaque été, il monte tout le temps dans le nord-est, le comté de le comté de Gloucester, puis il va voir un petit peu tout le monde. Fait qu'il sait qui est où. Puis les permis non plus, c'est pas nécessairement le. Si tu obtiens un permis, c'est pas nécessairement toi qui vas aller dans l'eau, là, mettre les filets. Là. C'est souvent des hommes d'affaires, puis qui. Il délègue les pêcheurs. Fait que souvent, comme Joseph Poirier, je pense pas, lui, qui va y aller mettre des bottes puis y aller dans l'eau. Là. Mais peut-être, là, mais un petit peu plus loin, il dit qu'il embauche 3 pêcheurs sur 2 bateaux. Là. Fait que il y en a d'autres, c'est ça que c'est. Il y en a de l'extérieur de la péninsule qui viennent acheter des permis ou qui obtiennent des permis.
Est-ce qu'on sait combien ça coûtait dans ce temps-là, Philippe?
J'ai pas vu de prix nulle part. Non, j'ai pas vu le prix.
Ouais.
J'ai vu des évaluations de chaloupes, là, ça va de dépendamment des années, là,
oui.
De 30 $ à 500 $ la valeur de la chaloupe. Là.
OK.
J'ai vu ça, là.
C'est plus le même prix maintenant, non, c'est pas juste des chaloupes non plus, là.
À 30 $, je suis pas sûr que je serais allé pêcher, moi, là.
Oui, la plus grosse année dans le comté de Gloucester, c'était 3 200 chaloupes en 1924. Il y avait, tu sais, passé 3 000 pêcheurs, là,
wow.
Qui pêchaient, ou en tout cas, qui avaient des chaloupes, là. Fait ça, les gens qui reçoivent des demandes, là, t'as un McGregor, puis un autre monsieur de Dalhousie, parce que les gars-là de Dalhousie font des demandes pour Miscou ou pour Salmon Beach ou pour Maisonnette pour avoir des permis. T'as un monsieur Campbellton, t'as Grattan là, de Bathurst, lui c'est un homme d'affaires, on a déjà parlé dans les chroniques là, qu'il y avait un magasin dans les années 10-20, puis lui il va rentrer en conflit avec les gens, là, ce Grattan-là. Lui, il obtient des filets de pêche dans le coin de Anse Bleu par là. Puis à un moment donné, il va en avoir d'autres à Four Road ou à Pocmouche ou à Tracadie. Puis là, il va se chicaner avec tout ce monde-là parce que là, il y a du favoritisme politique. Puis là, ils sont pas du bon bord. Puis là, l'autre veut enlever le filet. Là, lui, il veut en avoir d'autres. Là, lui, il dit qu'il y en a un, l'autre, il y en a 5. Là,
puis nous, on n'a plus là-dedans. De temps, Philippe.
Non, on n'a plus de temps. Ben, c'est ça.
On n'a pas le temps de la chicane.
Pour le saumon. Bon.
Mais très intéressant. Merci Philippe.
Ben de rien.
Hey, joyeux Pâques.
Oui, vous autres aussi.
Envie de prendre une marche? Mais tannée de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!